Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle de la République française. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie pour présenter à nos auditeurs cette assemblée dont le siège est au Palais d'Iéna à Paris, une institution mal connue des Français et dont l'utilité est parfois contestée. L'objet de notre émission est de mieux comprendre les enjeux du nouveau Conseil économique, social et environnemental qui a succédé au Conseil économique et social après la réforme constitutionnelle de 2008. Avant d'aborder ce sujet, je souhaite rappeler à nos auditeurs et sous votre contrôle votre brillant parcours dans la vie publique française. Vous avez été au départ directeur de société agroalimentaire dans le Pas-de-Calais et vous vous êtes engagé dans la vie politique locale comme conseiller municipal d'Avesnes-les-Bas-Paumes dès 1974. Vous avez été ensuite conseiller général du Pas-de-Calais et vous êtes depuis 1982 maire de Bas-Paumes et président de la communauté de communes de Bas-Paumes depuis, je crois, 1992. Vous avez été député puis sénateur du Pas-de-Calais et avez été le président de l'Association des maires de France, l'AMF, de 1992 à 2002. Vous avez ensuite occupé des fonctions ministérielles comme ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire de 2002 à 2004. Et vous avez notamment engagé la réforme de l'ENA, École nationale d'administration, et celle de la retraite des fonctionnaires. Vous avez ensuite été nommé par le président de la République, médiateur de la République en 2004. Une fonction que vous avez exercée jusqu'au 31 mars 2011, date à laquelle elle a été remplacée par celle de défenseur des droits nouvellement créée. Vous avez su donner à cette institution, la médiature de la République, autorité et notoriété. Vous avez d'ailleurs reçu le Grand Prix du communicant public de l'année 2010. Importante distinction. En tant que médiateur de la République, vous avez publié bien sûr de nombreux rapports et notamment en 2010 et 2011, des rapports très remarqués et commentés dans lesquels vous avez dénoncé les maux de la société française et vous avez proposé des moyens de les corriger. Vous avez été élu donc président du Conseil économique, social et environnemental le 16 novembre 2010. Et c'est donc à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Monsieur le Président, la loi constitutionnelle de juillet 2008 a profondément remanié la troisième assemblée constitutionnelle de la République française. Quelles ont été les raisons de cette évolution ? Quels sont désormais le rôle et les missions de cette Assemblée qui naît, d'après votre discours au président de la République prononcé lors de la séance inaugurale du 14 janvier 2011, ni un lieu de décision, ni un lieu de pouvoir, je crois, disiez-vous. Alors au fond, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
D'abord, merci Madame le maire de m'inviter et effectivement d'expliquer ce qu'est cette très belle institution trop méconnue. Lorsqu'on pose la question de savoir ce qu'est le CESE, peu de gens savent y répondre. Lorsqu'on explique ce que c'est que cette institution, la majeure partie des personnes trouvent que c'est une institution extrêmement utile au dialogue, notamment en France. Le CESE, c'est la troisième, vous aviez raison de le rappeler, la troisième assemblée institutionnelle. Il y a le Parlement national, le Palais Bourbon, qui est l'assemblée, je dirais, d'urgence de l'émotion. Il y a le Sénat, le Palais du Luxembourg, qui est l'Assemblée des territoires. Et puis, je souhaite que le Conseil économique, social et environnemental, le Palais d'Iéna, soit l'Assemblée du futur. La révision, elle est composée dès son origine, par ce que l'on pourrait appeler tous les représentants des forces vives de la nation, c'est-à-dire l'ensemble des organisations syndicales, la CGT, FO, CFDT, l'UNSA, la CFTC, mais aussi l'ensemble des organisations patronales et professionnelles, que sont les artisans, les commerçants, les agriculteurs, le MEDEF, les CGPME, les petites et moyennes entreprises, Et la dernière révision constitutionnelle a apporté des modifications très intéressantes. Un, la parité, homme-femme. Deux, la présence des représentants des mouvements de la jeunesse et des organisations étudiantes. Mais surtout, la présence d'organisations et d'associations environnementales et écologistes. C'est-à-dire que un E a été rajouté. Avant, c'était le Conseil économique et social. Et aujourd'hui, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Ce n'est ni un lieu de pouvoir, ni un lieu de décision, c'est un lieu d'influence où les hommes et les femmes qui ont quelquefois des intérêts contradictoires peuvent arriver à trouver des points de convergence pour porter aux décideurs politiques ce qui fait convergence, ce qui fait divergence. Par exemple, la semaine dernière, nous avons eu un débat très très riche sur la compétitivité française qui a été votée à l'unanimité. Et l'on voit bien qu'il y avait donc une prise de conscience, tant des organisations syndicales que des organisations patronales, des jeunes comme des environnementalistes, sur le problème, le défi que la France doit relever en termes de compétitivité.
Quels sont les différents modes de saisine du CESE après cette réforme constitutionnelle et quelle est aussi la part de chacune, la part des saisines gouvernementales et des auto-saisines par l'institution elle-même?
Alors, le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par soit le gouvernement, sur tous les projets de loi à caractère économique, social et environnemental, mais aussi par le Parlement, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais aussi aujourd'hui ce qui est une nouveauté qui a été apportée par la révision constitutionnelle voulue par le président de la République, par une pétition citoyenne portée par un seul mandataire et regroupant plus de 500 000 concitoyens. La saisine peut aussi être de auto-saisine. Nous pouvons nous auto-saisir sur des sujets dont nous estimerions qu'il soit nécessaire de les traiter pour anticiper les évolutions de la société. Et enfin, nous avons aussi un pouvoir d'évaluation des politiques publiques. Et par exemple, nous avons été saisis par le gouvernement avec un débat qui a été lancé au Conseil par le président de la République sur la dépendance. Mais nous nous sommes auto-saisis en termes d'évaluation sur Pôle emploi pour voir quel bilan nous tirions de cette nouvelle administration. Et nous avons reçu une saisine du Parlement qui porte sur l'autisme.
Oui, c'est, je crois, tout récent. Est-ce d'ailleurs la première fois que le Parlement saisit votre institution?
Alors, sous ma mandature, la réponse est oui. Nous avons une formidable accélération des saisines gouvernementales, puisque l'année dernière, le CESE avait été saisi par 2 saisines gouvernementales. Nous sommes déjà à plus de 10 en moins de 6 mois. Et sur des sujets extrêmement lourds, ça va de la mobilité des jeunes, au bilan du Grenelle de l'environnement, à la préparation de Durban. Nous avons été saisis par le gouvernement sur le plan national des réformes dans la perspective de l'engagement européen. Et nous avons aussi des saisines sur la biodiversité, sur la réforme de la politique agricole commune, sur l'ouverture à la concurrence des réseaux régionaux, la mobilité des jeunes, les inégalités à l'école, qui avaient fait un bruit tout à fait intéressant par un constat tout à fait préoccupant.
La pétition citoyenne donc est quelque chose de nouveau. À ma connaissance, c'est arrivé récemment une fois, et justement sur le thème de l'autisme. Donc, est-ce que la saisine du Parlement sur ce thème-là fait suite, au fond, à cette pétition?
Oui, on voit bien, je suis de ceux qui pensent que le législateur, dans sa révision constitutionnelle, avait souhaité offrir aux citoyens la possibilité de saisir le Conseil économique, social et environnemental pour qu'ils puissent traiter du sujet qui a été abordé. Le législateur a mis un curseur très élevé qui rend quasi improbable cette saisine, puisqu'il faut 500 000 citoyens. Je crois que la pétition la plus élevée, ça n'a pas dépassé les 200-250 000. Mais nous savons bien qu'au-delà de plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui interpellent sur le même sujet, ceci devient un sujet politique, dans le sens non pas partisan, mais citoyen du terme, et qui mérite d'être saisi. Et je crois que, effectivement, les associations comme Sésame Autisme, qui avaient commencé à lancer des pétitions sur Internet et qui avaient recueilli un nombre significatif de pétitionnaires, ont su attirer l'attention des parlementaires qui, effectivement, ont conforté cette saisine citoyenne par une saisine parlementaire qui, évidemment, ne fait pas concurrence, mais au contraire, met l'accent sur cette saisine citoyenne.
Donc, pensez-vous que les saisines parlementaires et les saisines citoyennes puissent se développer dans les années qui viennent?
La société, aujourd'hui, a absolument besoin. Chaque citoyen se sent de plus en plus indépendant et individuel, tout en ayant le souci d'un but commun, collectif. Mais chaque citoyen veut être entendu, écouté et être un coproducteur du futur. Donc il est évident que la relation entre le pouvoir, celui qui l'exerce et celui qui le subit, va complètement changer de nature. L'autorité ne pourra plus imposer sa décision. Il va falloir que les enjeux soient appropriés par l'opinion, qu'il y ait un temps nécessaire pour le débat, et qu'ensuite le décideur puisse décider. Et l'on voit bien que réfléchir au rapprochement du citoyen et du décideur est un enjeu fondamental. Car aujourd'hui, le discrédit de la parole publique, le rejet des institutions politiques, crée un phénomène extrêmement dangereux pour nos systèmes démocratiques. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'avoir des réflexes de repli sur soi, de repli identitaire, d'exigence du court terme, alors que nos solutions durables sont forcément porteurs d'un projet à moyen et à long terme. Et trouver des institutions qui n'instrumentalisent pas, parce que nous ne sommes pas un enjeu de pouvoir, nous ne sommes pas un lieu de pouvoir, mais qui fait que mon ambition, voyez-vous, c'est de faire en sorte que le Conseil ne soit pas au sommet d'une démarche, mais au cœur de toute une série de débats. C'est pour cela que j'ai souhaité ouvrir cela comme la maison des citoyens, que les citoyens viennent au sein du Conseil s'approprier les enjeux qui vont conditionner leur avenir.
C'est donc votre ambition pour le nouveau CESE. Et quels sont les objectifs que vous lui avez fixés? Et aussi, j'ai envie de vous demander, comment comptez-vous améliorer sa visibilité?
Dès que je suis arrivé, et peut-être de façon maladroite, mais en tout cas c'était le reflet de ma pensée, j'ai très clairement posé la question que vous avez posée dans votre introduction. J'ai dit, nous avons 5 ans pour prouver notre utilité. Et dans quelques semaines, je vais ouvrir un séminaire avec l'ensemble des présidents de groupe, des présidents de section, des membres de mon bureau, pour dire comment concilier la légitimité institutionnelle du Conseil à l'utilité citoyenne. C'est un enjeu fondamental. Nos concitoyens, aujourd'hui, veulent des choses utiles pour leur devenir et pas des institutions qui permettent d'assurer le confort de ceux qui y vivent, alors qu'eux vivent dans une situation d'inconfort. C'est la raison pour laquelle j'ai des exigences de transparence, j'ai des exigences d'exemplarité dans la clarification des comptes. J'ai souhaité que le budget soit présenté à l'Assemblée plénière et nous aurons dans des décisions de plus en plus collectives. Deuxième objectif, c'est mieux valoriser le travail qui est effectué et qui est souvent de grande qualité mais peu connu, et mieux ancrer le Conseil au sein et au cœur de la société. Mieux valoriser, nous avons créé une communication qui fait que nos avis, au lieu d'être diffusés à 200, le sont maintenant à 2000. Nous avons créé un journal et dans quelques semaines, nous aurons un site internet et intranet qui permettra de pouvoir être en connexion avec la totalité de celles et ceux qui ont des expertises qui peuvent nourrir un débat. Les nouvelles technologies vont nous amener à changer la verticalité de nos structures par l'horizontalité de nos réseaux. Nous souhaitons là aussi être au centre de ces réseaux pour pouvoir offrir un lieu de débat indépendant. Et mieux associer les citoyens, j'ai aussi souhaité ouvrir le palais de Diana. Toute institution de la République ne doit pas oublier que c'est une institution citoyenne, où les citoyens doivent se sentir chez eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le palais à des expositions, à des défilés de couture, à des expositions de tableaux au profit de causes comme le racisme. Je développe les colloques, car la France, trop souvent, oublie le dialogue et préfère le conflit au dialogue. Nous sommes un pays qui peut, s'il n'y prend pas garde, s'interdire tout débat contradictoire, alors que le débat contradictoire, le dialogue, est un phénomène d'enrichissement.
Le Palais d'Iéna, donc, est désormais ouvert à tous. Et d'ailleurs, je crois que pour les Journées du patrimoine, vous avez eu affluence. J'ai découvert aussi votre nouveau journal, Fil d'Iéna.
Oui.
J'ai vu que vos avis aussi avaient un look nouveau, enfin,
oui.
Une apparence nouvelle et plus séduisante.
J'ai souhaité faire en sorte que les avis fassent plus plaisir à ceux qui les reçoivent qu'à ceux qui les écrivent. C'est-à-dire que nous avions souvent des rapports extrêmement étoffés, extrêmement argumentés, de très grande qualité, mais qui ne correspondaient pas aujourd'hui à la rapidité de la lecture des décideurs. Un décideur veut avoir une fiche qu'il lit en une minute. Et si l'intérêt de cette fiche est suffisamment grand, il explorera ensuite les 20aines de pages qui expliquent cet avis. Et puis s'il veut approfondir sa connaissance, il lira le rapport de 200 ou 300 pages. Donc nous avons complètement inversé la construction des avis. Nous avons aujourd'hui des avis qui tiennent en une page recto verso, et donc qui peuvent se lire en quelques minutes, mais qui permettent de faire l'essentiel. Puis ensuite, nous avons donc cette explication des avis. Et lorsque nous sommes en séance plénière, je dois vous confesser que c'est quelque chose qui aujourd'hui impacte et interpelle l'ensemble des conseillers qui ont à se prononcer par vote. Mais nous avons aussi des retours très positifs de celles et ceux qui reçoivent nos avis et qui sont en plus appuyés par un journal qui s'appelle effectivement Le Fil d'Iéna. Et puis demain, par une actualité, nous avons aussi rénové dans l'attente du nouveau site, notre site internet, notre site intranet, et nous aurons un nouveau site extrêmement moderne d'ici quelques semaines. Nous sommes aussi en train de lancer un programme d'investissement très lourd pour faire en sorte que notre hémicycle soit adapté aux dernières technologies permettant de pouvoir mettre de la vidéoconférence, des caméras, d'une sonorisation performante, de façon à offrir ce lieu de débat à toutes les entreprises, à toutes les organisations syndicales, les associations, sur des enjeux de société qui ont à débattre. Nous avons eu, par exemple, au moment où il y avait une grande crispation de la société sur la laïcité, pendant une journée, nous avions reçu la totalité des représentants des différents cultes qui ont pu dialoguer entre eux et pouvoir se comprendre, se respecter, échanger.
Quels sont, en 2011, les principaux thèmes des travaux du Conseil ?
Alors, j'évoquais cela tout à l'heure. Nous avons été saisis par le président de la République qui a lancé le débat, d'ailleurs, au Conseil sur la dépendance. Nous avons ensuite travaillé sur des sujets lourds, comme la réforme de la politique agricole commune, sur des enjeux extrêmement prioritaires, comme les inégalités à l'école, la mobilité des jeunes. Nous avons fait un rapport sur Pôle emploi, qui a d'ailleurs servi aussi de réflexion au directeur, M. Charpie, et à l'ensemble des observateurs. Donc nous avons des sujets qui sont aujourd'hui les problématiques de l'environnement, évidemment, qui est au cœur de notre palais. Je souhaiterais que le Conseil puisse s'approprier des chantiers sur la durée, pour correspondre un peu à l'Assemblée du futur. Et je souhaiterais que le Conseil puisse réfléchir à ce qui va complètement bouleverser la structure de notre société dans les 15 ou 20 années qui viennent, ces bouleversements pouvant créer des tensions, pouvant même amener la rupture de notre pacte collectif. Ma détermination en tant que médiateur de la République, qui reste la même, c'est que je souhaite qu'en 2012, nous ne soyons pas uniquement à une confrontation de projets pour les candidats à la présidentielle de chiffres contre des chiffres, mais quels projets de société vont-ils nous proposer, avec d'un côté le vivre ensemble ou le chacun pour soi. Et ces chantiers, c'est évidemment le vieillissement à la population, qui peut amener des ruptures générationnelles, les jeunes ne voulant plus payer la retraite des anciens. C'est aussi l'éducation. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui récusent, refusent l'école comme lieu d'apprentissage parce qu'ils estiment que ça ne mène à rien. Et donc c'est un vrai débat de société. L'Europe va avoir besoin, troisième sujet, de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active. Comment avoir un débat apaisé sur la diversité culturelle, la multidiversité, l'intégration, l'immigration, l'identité de la France? C'est un sujet qui n'est réglé nulle part, dans aucun pays d'Europe, et qui pourtant va complètement impacter les enjeux politiques dans les 10 ou 15 années qui viennent. Nous voyons bien aussi que la nouvelle croissance est un phénomène pouvant mettre en opposition les agriculteurs, les écologistes, les industriels, les consommateurs, alors qu'en réalité, il y a des points de convergence très forts. Nous voyons, nous, les débats très riches qui sont proposés par les agriculteurs pour produire plus avec moins de sol, moins d'eau, moins de chimie. Et il y a des avancées intéressantes et des avancées aussi apportées par les associations environnementalistes et écologistes qui viennent apporter leur technicité, leur connaissance sur des enjeux qui vont complètement conditionner notre devenir. Et puis la compétitivité, voilà, ce sont les chantiers que nous pourrions tracer sur plusieurs années. Nous avons plusieurs colloques qui se tiennent. Nous avons eu un colloque sur l'engagement associatif au moment où l'année européenne portée sur l'année du bénévolat et de l'engagement, qui est là aussi le réveil de la citoyenneté. Nous aurons un colloque qui se répétera tous les ans sur le vivre ensemble, cette année portant sur confiance-défiance. Nous avons des colloques sur la charte sociale, le 50e anniversaire. Et nous allons aussi, l'année prochaine, pouvoir fêter l'anniversaire du père Wyszynski, notamment sur la problématique de la précarité.
ATD Quart-Monde, fondateur.
ATD Quart-Monde, voilà.
Il y a eu récemment un film.
Exactement.
Il y a quelques jours.
Exactement.
Eh bien, je vois que vos projets sont nombreux et que les sujets sont très variés. C'est ce qui me frappe. Très riche, très varié, essentiel. Vous êtes des combattants de l'essentiel, je crois, avez-vous dit.
Alors, j'avais repris cette phrase que je trouve très belle d'Edgar Morin qui disait « Je crois que les politiques trouvent essentiel de s'occuper des urgences, alors que ce qui est urgent, c'est de s'occuper de l'essentiel. » Je trouve cette phrase merveilleuse parce qu'effectivement, trop souvent aujourd'hui, nous sommes sur le court terme, sur le superficiel, et nous nions l'essentiel. Et l'essentiel, c'est évidemment les forces souterraines qui structurent nos sociétés et qui peuvent les faire exploser si nous n'y prenons pas garde.
Dans votre dernier rapport comme médiateur de la République, vous avez dressé le constat d'une France en burn-out, c'est-à-dire en usure psychique, et vous pensez, j'imagine, ayant été médiateur de la République et maintenant en tant que président du 16, que cette Assemblée compte tenu de la richesse de ses travaux et de l'impulsion que vous lui donnez, peut-être en mesure de répondre à certains de ces mots.
Lorsque j'avais mis ce rapport sur l'usure psychique, qui faisait suite à l'usure physique, avant on était fatigué au travail, maintenant on est stressé au travail, et il ne convient non plus de reposer les corps, mais d'apaiser les âmes, on voit bien que ce constat avait une très forte résonance dans la société. Je continue d'ailleurs à faire des conférences sur ce sujet. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était notamment la demande d'un besoin d'écoute. On se parle de plus en plus, on s'écoute de moins en moins. Et nous sommes dans une société de la performance, où cette accumulation de performance exigeait l'esthétique des corps, les résultats, avec des tensions quelquefois dans sa propre famille, c'est quelque chose qui dépasse les capacités de régulation. Et après avoir connu la quête du bien matériel, je crois qu'on va rechercher de plus en plus le bien-être. On préférera avoir moins de richesses matérielles, mais plus de bien-être. Et trouver des lieux d'écoute, des lieux d'empathie, des lieux de distance ou de distanciation par rapport à l'urgence et à la pression du moment, vont être plus nécessaires que jamais. Le Conseil économique et social environnemental peut, par sa neutralité, son indépendance, son recul par rapport au temps, apporter cette nouvelle relation au temps, cette nouvelle relation à l'espace, cette nouvelle relation à l'autre.
Il existe aussi, je crois, des CES régionaux, avec lesquels, bien sûr, vous instituez une coopération. Qu'attendez-vous de cette coopération ? Ainsi qu'avec les homologues étrangers de l'institution 16 et avec le Conseil économique et social européen. Au fond, il y a tout un réseau à la fois mondial, européen et régional, et vous êtes au cœur de ce réseau, donc qu'en attendez-vous ?
Merci de poser cette question, parce qu'évidemment, nous voyons de plus en plus que si la mondialisation est le terrain de l'économie, la socialisation, le lien social est le terrain local. Et qu'il est évident que sur des enjeux de société, plus rien ne peut se faire si on ne s'approche pas du terrain local et de la proximité, et si on n'a pas un pied dans le monde. Et donc nous devons réagir, faire reculer et la dimension temporelle et la dimension spatiale pour essayer d'avoir une vision à moyen et à long terme et une vision à l'espace-monde. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé nos liens avec les conseils économiques sociaux régionaux pour faire en sorte que nous traitions les mêmes sujets, par exemple sur la dépendance. Ils se sont saisis de ce sujet. Nous avons reçu des analyses extrêmement pertinentes de leur part. Mais en même temps, nous avons noué des relations très privilégiées avec le Conseil économique social européen pour avoir là aussi la capacité de pouvoir avoir un même débat à l'échelon européen, à l'échelon national et à l'échelon local. Sur le plan international, trois priorités ont été arrêtées. La première, c'est l'Europe, renforcer les relations infra-européennes. Deuxième priorité, le bassin méditerranéen. Troisième priorité, la francophonie.
Eh bien, vous êtes ici, Monsieur le Président, à Canal Academy. Nous nous battons depuis notre création pour l'essor de la francophonie. 40% de nos éditeurs sont à l'étranger. Ils pourront vous écouter. Donc, je les invite à écouter, bien sûr, cette émission avec Monsieur Jean-Paul Delevoye, président du CESE. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi écouter une émission que nous avons enregistrée avec vous-même en décembre 2007. Vous avez été auditionné par l'Académie des sciences morales et politiques et plus particulièrement par le groupe de travail de réflexion sur les AAI, les autorités administratives indépendantes, et vous aviez donné à l'époque votre point de vue en tant que médiateur de la République. Je les invite aussi pour en savoir plus, donc à aller sur le site internet de votre institution, dont l'adresse est je crois www.lecese.fr. qui est en voie de rénovation, mais où déjà on découvre beaucoup d'informations très intéressantes et très utiles. Monsieur le Président, merci et à bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission à Canal Academy.
Merci Madame le Maire et merci pour l'action que vous menez au sein de cette radio.